n'était pas tout à fait prêt, vous allez me redire tout ça.
Non, non, ça tourne.
Déjà ?
Non, quelqu'un part, j'enregistre. C'est pas intéressant, je coupe. Intéressant, coupé. Intéressant, coupé. Clic, clac, clic, clac, pouf.
Et alors, ils ont l'air bien pressés tous les deux. Où ils vont si vite ?
Ben là-bas, Saint-Jacques.
En pèlerinage ?
So may we start. So may we start. It's time to start. High time to start.
Vous arrivez en retard à tous vos rendez-vous ou seulement ceux qui sont pas importants?
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue dans Caméra Subjective, l'émission qui vous parle de cinéma sur Radio G, un mercredi sur deux à 19h. Et oui, nous ne sommes malheureusement pas sur la croisette ce soir, mais bien en direct avec vous et en studio. Bonsoir Cécile.
Bonsoir Margot.
Bonsoir Annie.
Bonsoir Margot.
Alors je parlais de croisette parce qu'il me paraît difficile d'ignorer que jusqu'à la fin de la semaine, entre deux averses et quelques manifestations de protestation de divers ordres, se tient le Festival de Cannes. Tous les dieux et déesses du 7e art se pressent sur les marches rouges, nouvelle Olympe, et nous, pauvres mortels, nous attendrons ce samedi pour découvrir le nom de la Palme d'Or de cette 73e édition. Une petite citation à propos de ce Graal, qui sera décerné cette année par le jury international présidé par le réalisateur suédois Ruben Östlund, vous m'avez suivi. Alors cette phrase, elle dit « Le palmarès en dit autant sur le monde que sur le cinéma ». Alors c'est pas moi qui l'ai écrite, c'est le directeur artistique du festival, Thierry Frémaux, qui le dit dans son journal de bord publié en poche chez Babel et qui s'appelle « Sélection officielle » bien sûr. Une lecture que je vous recommande chaudement si vous êtes intéressé par les dessous de cette manifestation aussi prestigieuse que cinéphile. Alors, le festival ce soir chez nous, ce sera Cécile qui vous en parlera en fin d'émission.
Et oui, on parlera d'une palme d'or précédente. Et pour commencer, Margot, tu nous proposes un entretien avec Céline Thiou, réalisatrice de documentaires installée au Mans.
Bonjour Céline Thiou.
Bonjour Margot.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes réalisatrice de films documentaires et votre nouveau projet s'appelle « Maëlle et la Révolution ». Il a été produit par la société nantaise Les Nouveaux Jours, coproduit par France Télévisions et diffusé sur France 3 Pays de la Loire le 11 mai dernier. Et j'ajoute qu'on peut le voir gratuitement en replay jusqu'au 11 juin sur la plateforme de France Télévisions. Céline, il me semble qu'en plus d'être réalisatrice de films, vous êtes aussi comédienne, metteuse en scène et intervenante dans le cadre d'ateliers de réalisation avec des jeunes, le jeune public. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur votre parcours et puis surtout sur la façon dont toutes ces activités peut-être se nourrissent entre elles, se font écho ?
Oui, alors à dire vrai, depuis quelques temps, je suis vraiment plutôt concentrée sur l'écriture de films et la réalisation de films. Mais il y a encore pas si longtemps que ça, oui, j'alternais. Je faisais plutôt de la mise en scène, encore parfois, enfin des spectacles dans lesquels je jouais, et puis par moment je pouvais jouer dans des projets qui n'étaient pas que je n'initiais pas. Mais disons que voilà, maintenant je le temps n'étant pas extensible et faire des films, ça prend énormément de temps et d'énergie. Donc je suis plutôt auteur réalisatrice.
D'accord. Et est-ce que vous voyez des liens entre les films que vous tournez, les sujets que vous soulevez, qui vous intéressent, et puis vos autres activités ?
Alors, moi, je pense que de toute façon, tout se nourrit mutuellement. Et j'en suis assez convaincue à partir du moment où on commence à être obsédé par une idée, ou qu'on tire un fil. Il est certain que voilà, les choses se font écho et se nourrissent mutuellement. Donc je dirais par exemple que vous faisiez allusion au travail d'éducation à l'image, hein, que
oui, par exemple, mais c'est aussi que, en fait, j'ai pas eu la chance de voir tous vos films, mais néanmoins, j'ai quand même un petit peu regardé de quoi il retournait. Je suis quand même très frappée. Vous avez réalisé une dizaine de films, essentiellement des documentaires, mais il me semble qu'il y a vraiment des liens très forts entre eux, avec des questions qui se font écho de film en film. Avec, par exemple, on pourrait dire, pour certains d'entre eux, une véritable attention aux gens, à leur vie quotidienne, à leurs aspirations. Ça serait peut-être pour vos premiers films, ceux comme L'Attrape-Temps, Entre ici et là-bas, etc. Ensuite, on voit qu'il y a toute une partie de votre œuvre qui est consacrée à la jeunesse, avec un film qui s'appelle Figure d'enfance, dans lequel vous demandiez à des enfants de s'exprimer un petit peu sur ce que c'était qu'être enfant, justement. Il y avait aussi un film, il y a Sale Gosse, que vous avez réalisé plus récemment, qui partait, il me semble, de votre d'une expérience d'éducation à l'image en milieu ITEP. Et puis il y a aussi, j'ai l'impression, un attachement à la relation de chacun au monde qui l'entoure. Donc c'est ça que je trouvais que c'était intéressant dans votre filmographie, de voir vraiment cette cohérence, cette façon de creuser des thématiques assez proches, mais de différents points de vue, en fait.
Oui, alors l'enfance et l'adolescence, ça c'est sûr que c'est pas très, comment dire, c'est pas super original. On est énormément d'auteurs réalisateurs à avoir cette nécessité-là, là, de s'attacher à ces périodes de la vie. Donc ça, c'est quelque chose qui est revenu beaucoup, effectivement, qui est pas prêt de s'arrêter, je pense, parce que c'est toujours des âges qui m'intéressent beaucoup. Le monde des sourds aussi, qui est alors ça, je pense que c'est plus, effectivement, la singularité, la marge sont très souvent au cœur des films documentaires en réalité. Enfin, quand on, par exemple, il y a un certain nombre de films qui sont presque des genres en soi. On pourrait presque parler du film documentaire paysan. Voilà, il y a énormément de films. Il se trouve que dans Maëlle et la Révolution, c'était pas le sujet ni le cœur du film, mais pour autant, ça m'a vraiment permis d'aller filmer des agriculteurs. Donc le personnage que j'ai filmé, il était apprenti en maraîchage.
Oui.
C'était vraiment des espaces qui sont toujours, ça faisait longtemps, je me disais, c'est pas la première fois que je filmais un maraîcher en l'occurrence, mais voilà, c'est des endroits que j'aime beaucoup filmer, et c'est assez, comment dire, on le sait bien, hein, les agriculteurs, je crois qu'ils sont 400 000 en France, j'entendais ça hier, c'est vraiment très marginal en fait. C'est des endroits, qui sont très riches de plein de choses. Et pour autant, qui sont pas nécessairement ultra représentatifs. J'ai fait un film qui essayait d'être plus, comment dire, de s'attaquer plutôt entre guillemets à un sujet qui nous touche tous. C'était un film sur l'argent. Et justement, la sociologue, je pense à ça parce que la sociologue avec laquelle j'ai fait ce film, Pascale Moulévrier, elle me disait toujours, ouais, mais il faut. Elle notait que le documentaire s'attachait énormément aux marges et assez peu au gras de la société, je sais pas comment appeler ça, mais enfin, disons aux classes moyennes en général, aux petites et moyennes classes moyennes. C'était toujours soit effectivement elle est spécialiste de l'argent, Pascale Moulévrier, donc elle me disait il y a énormément de films sur la pauvreté par exemple.
Oui. Il y en a aussi sur le handicap. Il y en a sur les personnes malades, etc. Effectivement, enfin, on peut penser aussi à Sur la Damant de Nicolas Philibert,
ouais,
plus récemment.
Oui, tout à fait. Oui, mais ça, c'est vraiment, je pense que c'est... Alors, une des raisons pas très glorieuses, je pense, qui est responsable de ça, c'est que précisément, l'écrasante majorité des gens qui font du documentaire viennent plutôt de la classe moyenne, en fait.
Ah, d'accord.
Donc, ils sont beaucoup plus intéressés par des endroits du social qui sont pas ceux qu'ils connaissent, parce que enfin c'est quand même une opportunité extraordinaire et que moi, j'adore, de me dire, tiens, sur chaque film, d'aller voir des gens qui vivent pas comme moi.
Oui, effectivement.
D'où le fait aussi que c'est comme ça que j'ai rencontré des sourcignants, que j'ai appris la langue des signes. Enfin, je veux dire, c'est l'opportunité de faire un vrai pas de côté par rapport à sa propre vie.
D'accord.
C'est pas nécessairement une grande loi du documentaire, mais quand même, en fait.
Non, mais c'est votre approche, en tout cas.
Ouais, bah, en, En tout cas, c'est pas mon approche au sens où j'ai pas l'impression de le faire exprès. Enfin, j'ai pas fait exprès d'être une fille de prof, quoi. Mais, mais en tout cas, que ce qui m'intéresse, c'est d'aller vers des gens qui, a priori, ne vivent pas comme moi. Ouais, ça, c'est sûr, quoi.
Alors, justement, vous parliez de filmer les marges et vous disiez, vous rappeliez que peut-être le monde agricole est un petit peu un monde en marge, en tout cas par le nombre de personnes que ça concerne directement. Ce qui est intéressant avec votre nouveau film, Elle et la Révolution, c'est que vous filmez ce monde-là avec un personnage qui lui-même paraît être un petit peu en marge de ce monde-là, puisqu'il s'agit de Maëlle, dont vous dites dans le dossier de présentation du film qu'il est apprenti jardinier, apprenti militant, apprenti à la ferme du Grillon, qui est une ferme en agriculture bio, apprenti révolutionnaire et apprenti homme. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur Maëlle et peut-être, pour commencer, nous raconter comment vous l'avez rencontré?
Alors, j'ai rencontré Maëlle alors qu'il avait 16 ans et qu'il participait à un concours d'éloquence. En fait, il avait été repéré par le centre social de Coulaines, donc une petite ville qui est collée au Mans. Dans la banlieue mancelle dans laquelle il vit. Et je filmais à ce moment-là une jeune femme qui avait le même âge que lui d'ailleurs. C'était que des jeunes gens des quartiers populaires de la ville du Mans. Et il était le seul garçon au milieu de 11 filles. Et donc voilà, et quand je les ai tous rencontrés, évidemment, pour pouvoir filmer le personnage auquel j'étais attachée, bien évidemment. J'ai rencontré tous les autres et je me souviens que je l'avais trouvé vraiment singulier parce qu'au milieu de ces filles, leur avait dit alors moi là je suis le seul garçon, donc je vous propose que on conjugue tout au féminin parce qu'il y a aucune raison que le masculin l'emporte sur le féminin vu que vous êtes plus nombreuses. Mais par contre, quand vous vous adressez à moi, je suis un garçon. Et je m'étais dit, tiens, il est vraiment rigolo, lui. Et bref, je l'ai recroisé à l'occasion de la première semaine du confinement en mars 2020. Et il m'a dit je viens juste d'avoir un jardin potager, je suis devenu végétarien, j'ai demandé un potager. Donc il avait un petit jardin ouvrier et il m'a dit viens voir, tu vas voir, c'est super. Donc en fait voilà, c'est comme ça que les choses ont commencé, à un moment un peu clé de son parcours scolaire, parce qu'en fait Maëlle il voulait faire un apprentissage en mécanique moto. Et puis il se trouve que son engagement très récent pour la lutte contre le réchauffement climatique avait un peu bouleversé son orientation. Il s'était dit tiens, c'est pas grand, voilà. Donc voilà, c'est ça le début, la rencontre.
Alors justement, vous parlez de cette envie de faire, enfin au départ, ce projet de devenir peut-être mécanicien. Ce qui est assez intéressant dans votre film, c'est que on a l'impression qu'il est d'abord construit autour de décors. Donc il y a le fameux jardin potager dont vous parliez juste à l'instant. Il y a aussi le lycée agricole où Maëlle va continuer ses études. Il y a Coulaines qui est le lieu où il réside. Et puis entre tous ces décors, donc qui sont tout à fait centraux dans votre film, il y a des scènes où on découvre Maëlle à mobylette, je crois. Et on a vraiment l'impression d'un personnage qui là trouve son émancipation, sa liberté. Enfin que ces fréquentes séquences où on le voit conduire sont un petit peu l'occasion pour vous de montrer que c'est un jeune homme qui chemine, qui est en recherche peut-être d'une certaine émancipation.
Oui, oui, oui. Et puis et je pense que quand on grandit comme ça, notamment à Coulaines, mais en périphérie d'une ville plus grande qu'est Le Mans, ça passe, et notamment dans les classes populaires et les classes moyennes, ça passe beaucoup pour les garçons, en tout cas, par la possession d'un scooter, ou lui, en l'occurrence, d'une mobylette, d'une Peugeot 103 ou 104, je sais jamais le numéro. Mais, ça passe par ça, en fait, pour pouvoir bouger, aller boire des coups avec les copains, etc. Donc, c'est aussi, c'est un paradoxe dans le parcours aussi, très politique de Maëlle, hein, qui va vers, évidemment, maintenant il est plutôt à vélo.
Oui.
Mais mais cet engin, en plus c'était vraiment quelque chose qui quand je l'ai rencontré, notamment pour ce concours d'éloquence par exemple, qui se passait au centre du Mans, il venait tout le temps pendant le travail sur son discours et puis les répétitions et tout ça, il venait toujours avec sa mob. Donc c'est vraiment attaché à, c'est vraiment Lucky Luke et Jolly Jumper, Maëlle et sa mobilette, quoi.
Et justement, dans la construction de, on peut quand même parler de construction de personnage, quand bien même c'est une personne réelle, mais on voit que vous le montrez à la fois, d'une certaine manière, pétri de paradoxes, en tout cas d'un certain nombre, et en même temps, c'est aussi un personnage qui se construit en opposition, puisqu'il rompt, il rompt avec son milieu d'origine, puisque on comprend un petit peu qu'il est issu d'une famille d'agriculteurs, ou en tout cas, il a des agriculteurs proches de dans ses proches, qui sont plutôt versés à agriculture intensive, et puis il rompt surtout avec ses camarades de son CFA, de son lycée agricole, qui sont eux aussi dans une logique assez extensive et intensive. Et lui est vraiment, ça m'étonne pas que vous l'ayez rencontré dans un concours d'éloquence, parce qu'on voit aussi que c'est un personnage qui recherche le dialogue, qui assume ses contradictions et cherche à faire réagir aussi les autres.
Oui, tout à fait. Bah, c'est vraiment. Alors, ce qui est dans le projet du film, hein, quand on s'est rencontrés, en fait, quand j'ai la première séquence où on le voit dans son jardin,
oui,
donc au tout début du film, c'est le vraiment ça reflète le premier jour où j'ai tourné avec Maëlle. Donc on voit d'ailleurs il y a rien dans le jardin à ce moment-là. Il arrache l'herbe, quoi. Et donc à ce moment-là du film, son destin d'apprenti maraîcher n'est pas du tout dessiné, en fait. Il était au lycée général, mm-hmm, et il voulait faire une première en faisant géopolitique, théâtre et philo. Bon, il se trouve que c'est pas comme ça que ça s'est passé et que voilà, ils ont pas voulu de lui dans cette filière-là, et que il a faisant du jardin, il s'est dit tiens, je vais aller faire un bac pro horticulture, et pour le coup c'est assez déterminant pour le film, parce que ils se retrouvent effectivement, ils sont deux jeunes apprentis en maraîchage au milieu d'une classe de jeunes hommes essentiellement, il y a qu'une jeune fille, de jeunes gens qui sont en agroéquipement.
D'accord.
Donc ils sont plutôt orientés tracteurs, traitement, phyto, tout ça. Et donc, évidemment, ça donne lieu à des discussions très virulentes, même si elles restent, même s'ils restent toujours dans le dialogue, ce qui m'a intéressée d'ailleurs. Mais oui, puis c'est la première année aussi, c'est l'année aussi où ils vont voter pour la première fois. Ils ont tous, atteint l'âge de 18 ans. Ils vont voter pour la première fois. Et évidemment, ils se retrouvent avec des jeunes gens qui vont plutôt, qui ont plutôt des sensibilités. Extrême droite. En
fait. Oui, mais alors ce qui est assez, il y a une séquence qui est extrêmement forte sur ce sujet, parce qu'effectivement c'est l'année où vous filmez en 2022, c'est l'année de la campagne présidentielle. Et moi, il y a une séquence qui m'a beaucoup marquée. Je pense que je suis pas la seule, mais où il y a un cours où un enseignant fait justement la liste, enfin, de tous les candidats qui se présentent au premier tour, et il demande à ses élèves de les classer par couleur politique, de revenir un peu, il revient un peu avec eux sur les propositions principales de chacun des candidats. Et c'est vrai que c'est assez frappant de voir là l'écart entre Maëlle et ses camarades. C'est un écart évidemment sur leurs convictions politiques, mais c'est aussi un écart sur leurs connaissances politiques. Alors est-ce que vous avez été étonné de, quand vous avez découvert l'état de l'engagement de ces jeunes, peut-être l'état de non-engagement d'ailleurs de ces jeunes en fait?
Oui, alors je mettrais juste un petit bémol, c'est qu'en fait, effectivement, la majorité des camarades de Maëlle sont incapables de placer sur une ligne allant de gauche à droite les différents candidats, sauf quand même deux. Charles, qui est un personnage récurrent dans le film, avec oui, qui c'est avec lui qu'ils mangent McDo dans une voiture et qu'ils ont leur première discussion politique. Donc c'est pas tous quand même.
C'est vrai qu'il y a des scènes d'anthologie dans le film, faut quand même le dire.
Ouais, voilà, il y en a quelques-unes en fait partie, ouais, qui sont gratinées, ouais. Enfin, qui sont, moi j'adore. Hein. Oui, alors on va dire très majoritairement, effectivement, ils sont trois. Je pense qu'ils sont trois à être plus affûtés politiquement que les autres. Mais oui, c'est sûr que c'est moi ça c'est vraiment quelque chose qu'on a. Je veux dire que Maëlle découvre dans la scène, hein, quand même. Donc,
ah oui.
Moi aussi.
D'accord.
Que, Maël, il est atterré. Il dit, d'ailleurs, il a des réflexions rigolotes. Il dit, ah ouais, c'est, au début, il a peur. Il dit, oh là 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 là, non, mais les gars, ils vont voter, quoi. Ils mettent Dupont-Aignan à côté de Poutou, quoi. Ça va pas du tout le faire. Et puis, bon, du coup, enfin, très honnêtement, moi, j'étais à ce moment-là, en tournant la scène, je me disais, mais elle est incroyable, cette scène, parce que je m'attendais pas à ça. Enfin, je m'attendais pas que ce soit à ce point, quoi, d'ignorance, quoi, en fait. C'est plutôt ça, en fait.
Ouais. Mais du coup, alors, je m'appuie sur cette séquence-là dont vous dites que, effectivement, personne ne s'y attendait, et ni Maël, ni vous. Et j'avais quand même envie de vous demander, dans le documentaire, comment est-ce qu'on écrit son film? Parce que j'imagine que vous n'avez pas fait répéter les élèves, puisque, encore une fois, vous ne vous attendiez pas à ce qu'ils allaient dire. Alors, comment est-ce qu'on définit les séquences qu'on aimerait tourner? Comment est-ce qu'on décide le jour J de les tourner? Comment est-ce que vous avez procédé, du coup?
Alors, dans l'écriture, je savais, notamment le personnage... dans l'écriture du film, en fait, j'ai tourné 2 ans au lycée. Mmh. Et toutes ces séquences-là sont tournées au cours de la seconde année. Donc, l'année à la fois de la présidentielle. Et puis, du coup, ça veut dire aussi que y a une vraie confiance qui s'est installée et que j'ai énormément tourné. Voilà, des images qui ne sont pas dans le film, mais qui m'ont permis de vraiment avoir la confiance de tous ces jeunes gens dans la classe et des profs. Et donc, il y avait, à l'écriture du film, il y avait une chose qui était évidente, c'était donc deux antagonistes, on va dire, de Maël, qui était Charles, d'une part.
Donc celui dont on vient de parler.
Voilà, qui était un personnage vraiment, qui est un jeune homme que j'adore, qui est vraiment incroyable, et qui est à l'opposé des convictions politiques de Maël, notamment en ce qui concerne, on va dire, l'antiracisme de Maël, voilà, et ses convictions écolo. Et puis pareil avec Hugo, qui est un autre personnage, donc qui est beaucoup plus, comment dire, pas du tout aguerri politiquement, mais qui est beaucoup plus, qui est vraiment le binôme de Maël. Ils sont tout le temps ensemble au lycée, etc. Et qui était un personnage qui m'intéressait beaucoup parce que je voyais que il pouvait bouger, en fait. En ayant des discussions avec mon personnage, donc fort un peu de toutes ces antagonismes. Moi, j'ai pu la deuxième année, j'ai pu voir aussi avec les profs qui m'ont dit nous dans notre programme on a la mondialisation par exemple, donc ils m'avaient dit ça sera beaucoup plus intéressant pour toi au tournage. Donc j'avais quand même toutes les thématiques. Et oui. Puis Vincent, donc le prof de culture générale, qui me dit voilà, ce que j'ai l'habitude de faire avant les élections, c'est un cours comme ça où on travaille un peu sur les programmes des candidats. Mmh. Donc, c'est aussi comme ça que ça se construit parce que...
Oui, c'est un peu collectif, finalement.
Bah ouais, il y a des moments, on sait qu'il va y avoir des moments forts, etc. Après, évidemment, c'était dans le dossier. À l'écriture du film, je m'étais dit, ça va...
Il va falloir que je filme ça, quand même.
C'était sûr.
Oui, bien sûr.
Et puis parce que Maël, il était plutôt terrorisé quand il est arrivé au lycée de la première année. Il m'avait dit non, mais ça sera pas possible de tourner. Tu te rends pas compte. Je peux pas du tout dire que je suis végétarien. Je peux pas du tout dire que je suis à gauche. Enfin, il avait peur. Et au fur et à mesure du tournage, il m'a dit mais t'inquiète, là maintenant je suis prêt. Et, je me sens fort. Je vais y aller. Et puis donc toutes ces discussions fantasmées, elles ont trouvé un moment. Elles ont trouvé leur climax à ce moment-là, quoi. C'est-à-dire, après, on en avait sur les élections. Pour être honnête, on en avait 2-3 autres qui étaient vraiment bien aussi, quoi.
Ça sera les bonus de l'édition DVD, peut-être, mais
ouais, il y avait super violence. Il y avait une autre séquence qui était super, par exemple, où ils votaient d'ailleurs, où la classe votait. Ils avaient fait un vote avant les élections pour voir. Ce qui se passerait dans la classe, quoi, qui passerait. Donc, c'était quand même vachement bien aussi.
Oui. Alors, on entend dans vos propos qu'il y a effectivement une étape d'écriture très importante au montage, au moment où on fait le choix dans tous les rushs qu'on a filmés. Moi, ce qui m'a aussi un petit peu surprise, c'est que vous avez fait le choix, du coup, on voit beaucoup Maël dans ce jardin. On le voit beaucoup avec ses camarades, avec ses amis. On le voit finalement... assez peu en manifestation, finalement, alors qu'on comprend que ça a été des moments extrêmement forts dans son engagement, en fait, ou dans son début d'engagement, en tout cas.
Ouais, alors oui, c'est vrai.
Alors pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix? Alors peut-être qu'elles n'ont jamais été filmées, ça je sais pas. Ou...
Si, on avait, j'avais 4 manifs, je crois.
D'accord.
Mais alors il se trouve que à la fois, quand on a vrai, enfin, il se trouve qu'il en que d'abord c'était le confinement et que ça a mis vachement de temps à repartir en fait les manifs. Enfin, on se rappelle plus, mais lui, il avait beaucoup manifesté. Donc fin 2019, c'était le premier round des manifs pour la retraite.
Oui.
Après, il y a eu le confinement et ça a mis vraiment beaucoup de temps. Mais toute la vie militante a mis du temps à repartir en réalité. Donc, il se trouve que c'était beaucoup moins son quotidien. Avant, il y allait hyper souvent et tout ça. Donc, il y a une manif qui est celle avec les collages là sur la loi mince de sécurité globale. Là, ça me revient. Et qui était, je trouve, la plus intéressante en plus parce que la plus visuelle. Et du coup, c'est aussi donc c'était aussi lié à ses engagements du moment, quoi. C'est-à-dire à le fait qu'il y avait plus de manifs, que lui il y allait moins. Et puis, je crois aussi. Je crois aussi que, enfin, je sais pas, mais j'ai en tout cas dans les manifestations qu'on avait au montage, il y avait une chose qui était certaine, c'est que c'était quand même c'était intéressant d'avoir cet aspect-là, mais ce qui nous intéressait plus quand même, c'était de voir les moments où ça dialogue.
Oui, c'est vrai que finalement, ces moments de manifestation sont remplacés ou en tout cas sont évoqués et présents dans le film à travers les échanges qu'a Maël avec des adultes, parce que c'est aussi ça une marque de son engagement, c'est que c'est un jeune dans un monde de personnes plus âgées que lui, de militants plus âgés que lui. Je pense notamment au personnage d'Amélie de Alternatiba, qui avec qui il y a vraiment aussi des discussions très intéressantes, parce que votre film montre un militantisme en construction, en fait, un militantisme qui s'affirme mais qui se pose aussi des questions. Il me semble que c'est quelque chose de plutôt intéressant et rassérénant.
Oui, et puis le projet c'était vraiment de réfléchir à comment se construit une conscience politique. Et je pense qu'évidemment elle se construit par le corps dans une manifestation, mais le fait est que la trajectoire de Maëlle fait que son corps est tellement engagé dans le travail du maraîchage et au jardin que en fait ce corps-là, il est politique aussi, hein, pour moi. Il est largement aussi politique qu'un corps en manif. En tout cas, pour ce jeune homme, pour Maël, à 17 ou 18 ans. Donc, je veux dire, d'abord, effectivement, vous avez évoqué le fait qu'il est très jeune. Et qu'en manif, des jeunes gens de son âge, il n'y en a pas beaucoup, en fait, en réalité. Lui, pourquoi il se retrouve à discuter avec des adultes, c'est aussi parce que tous ces adultes, il les a rencontrés dans des manifestations. Et que ces adultes n'ont de cesse de lui dire, « Waouh, c'est super, t'es là, parce que avoir 16, 17 ou 18 ans en manifestation, finalement, c'est pas le gros des troupes dans les manifs. » Donc, je pense que c'était aussi le corps politique du travail de la terre. Enfin, j'ai l'impression que c'est très politique.
En fait. Non, mais c'est vrai, tout à fait. En tout cas, un grand merci Céline Thieu pour cet avant-goût de votre film, donc Maëlle et la Révolution, qu'on peut retrouver et qui est disponible gratuitement jusqu'au 11 juin sur le site de France Télévisions. Évidemment, nous remettrons le lien et toutes les informations utiles sur la page de l'émission. Merci Céline.
Merci Margot.
Aucun mec ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme. Mais Kevin, crétin de Secret Story 3, oui. Il paraît qu'il a coupé ses cheveux, c'est imbécile. Par moments ressemble à Brad Pitt, mais il n'a pas les mêmes muscles. Michael Vendetta ne ressemble pas à Brad Pitt, même s'il est blond. Il est nunuche, c'est un connard, il ne mérite pas de gagner la fame de célébrité. Son métier, c'est de faire le buzz. Il a la même voix que Sting dans le dessin animé Fairy Tail. J'ai partagé ma chambre avec ma copine Léa, qui ressemble à Scarlett Johansson en rousse. Nicolas Momonosky
à la plane ressemble à Hayden Christensen. Je crois qu'il est célibataire, mais je n'avais pas le niveau de ski pour me marier avec lui. Je ne l'oublierai jamais. Aucun autre ne ressemble à Brad Pitt comme moi.
Ça décoiffe. Vous êtes bien sur Radio G 101.5 FM dans l'émission Caméra Subjective.
Et vous venez d'entendre « Aucun mec ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme ». Et c'est bien vrai. Un titre du collectif Astéréotypique qui était au cœur du documentaire « L'énergie positive des dieux » réalisé par Laetitia Muller et sorti l'année passée.
Alors on part tout de suite pour le Festival de Cannes, à nouveau avec Cécile, qui nous a préparé un portrait de la réalisatrice Julia Ducournau, avec qui elle partage un attrait pour le gore et l'hémoglobine.
Oui, Anne-Li, ça va saigner. Le gore et l'hémoglobine. Effectivement, aujourd'hui, je vous propose ce portrait de Julia Ducournau, qui tisse un lien particulier avec le Festival de Cannes. Entre Julia et le Festival, la relation est tumultueuse. Elle commence en 2011 et se poursuit cette année. Alors qu'elle est une toute jeune réalisatrice diplômée du département scénario de l'AFEMIS, Julia Ducournau se fait remarquer lors de la semaine de la critique à Cannes en 2011. Avec son premier court-métrage, Junior. Son court-métrage est récompensé par le Petit Rail d'Or et sera ensuite primé à de nombreux festivals internationaux. Julia donne le ton, Junior est le récit d'apprentissage de deux sœurs cannibales. Depuis son enfance, elle est effectivement amatrice de films d'horreur et raconte volontiers avoir regardé en cachette Massacre à la tronçonneuse à 6 ans. Julia est passionnée par la transformation des corps et elle confie avoir toujours bien aimé qu'une image produise sur elle un effet physique. Mais ce n'est qu'avec Grave, son premier long métrage, qu'elle se fait connaître du grand public. Ce film qui a été écrit en 5 ans et tourné en 37 jours a été fondateur pour Julia. Il est présenté au Festival de Cannes en 2016 et reçoit le prix Fipreski à la Semaine de la Critique. Il restera à l'affiche dans les salles de cinéma pendant plusieurs mois, à sa sortie en 2017, et connaîtra également le succès dans de nombreux festivals internationaux, dont le Festival de Toronto.
Et celui d'Angers, il était à premier plan d'Angers, Grave.
Même si la projection a provoqué sur quelques spectateurs canadiens des malaises à cause des images de cannibalisme, Grave est avant tout un thriller sur l'adolescence. Justine, une ingénue de 16 ans, jouée par Garance Marillier, quitte le cocon familial pour rejoindre une école vétérinaire réputée, marchant sur les traces de ses parents et de sa sœur qui ont choisi la même voie. Et Justine sombre peu à peu dans la folie après un bizutage. Elle découvre sa sexualité en même temps que le cannibalisme. Grave explore les plaisirs de la chair.
Ce film se lit comme une rêverie sur la mutation des corps et des identités. Ce thème de la métamorphose est partagé par David Cronenberg, avec qui Julia Ducournau entretient plus d'une affinité. Elle est passionnée par le réalisateur canadien et étudie tout son cinéma en commençant par Crash. Ce film provoque chez elle un profond malaise au moment de l'avoir découvert, tout en la fascinant, et il influencera son travail. Ils se rencontrent une première fois au Festival de Toronto, Grave est en compétition, et se sont retrouvés en 2022 à Paris pour des entretiens. Tu as souligné qu'effectivement, le grave était à premier plan. Et la comédienne Garance Marillier, dans son rôle de Justine, reçoit le prix d'interprétation féminine à ce moment-là. Je vous propose d'écouter un extrait de Grave, une scène, la scène du bizutage.
T'es végétarienne, toi, maintenant?
Bah non, pourquoi?
Et elle, c'est ta sœur?
Mais j'appelle mes parents, si tu me crois pas. T'es sérieuse, là? C'est pas la mer à voir, franchement, tout le monde y passe.
Bah t'as qu'à manger le tien, alors.
Le mien, je l'ai déjà mangé l'année dernière, sinon je serais pas là. Allez, je te regarde. Tu vois, c'est rien. Ouvre. Tu seras contente de l'avoir fait. Non, mais tu vas pas commencer l'année sur un abandon, là. Tu t'affiches.
Boudé par la critique, le deuxième long métrage de Julia Ducournau, Titane, trouve sa place au Festival de Cannes 2022. Ce film raconte les liens entre une rescapée d'un accident de voiture et un pompier bodybuildé qui ne se remet pas de la mort de son fils. Les jurys ont du mal à se mettre d'accord, comme il le révèle lors de la conférence de presse donnée juste après le palmarès. Le réalisateur américain Spike Lee, président du jury, a pris de court les organisateurs en annonçant la palme dès le début de la cérémonie de cette 74e édition, alors qu'il devait annoncer le prix d'interprétation masculine. Julia Ducournau est donc la deuxième femme à remporter la Palme d'Or après Jeanne Campion en 1993, soit 28 ans après, donc pour la leçon de piano. Ce prix prestigieux attribué à Titane récompense un cinéma transgressif, empreint de féminisme. Seules 4 femmes réalisatrices étaient en compétition cette année-là, pour 24 films au total. Un signal majeur dans une industrie qui s'interroge sur la place des femmes et l'égalité entre les genres. Extrait de la cérémonie de la Palme d'Or.
C'est une arme et c'est une force pour faire repousser les murs de la normativité qui nous enferment et qui nous séparent. Parce qu'il y a tant, de beauté, d'émotion et de liberté à trouver dans ce qu'on ne peut pas mettre dans une case et dans ce qui reste à découvrir de nous. Donc je voulais remercier infiniment le jury, de reconnaître avec ce prix le besoin avide et viscéral qu'on a d'un monde plus inclusif et plus fluide.
Julia traverse l'Atlantique pour travailler aux États-Unis dès 2020. Elle réalise 2 premiers épisodes de la suite de la série américaine Servant, créée par Night Shyamalan à Hollywood. La série d'angoisse diffusée par la plateforme Apple TV+, a connu du succès. Et donc en 2022, elle réalise 2 épisodes de la série The New Look avec Juliette Binoche et Ben Mendelsohn qui sortira prochainement. Actuellement, Julia développe toujours aux États-Unis sa propre série avec A24 TV et travaille sur son prochain long métrage. Mais l'aventure canoise continue en ce moment pour la réalisatrice Julia Ducournau. Et membre du jury long métrage de cette 76e édition du Festival de Cannes, qui se déroule donc du 16 au 27 mai.
Merci Cécile. Alors, je vais le dire parce que peut-être que tu n'as pas osé le préciser, mais pour toi c'est un jour particulier parce que était projeté ce matin dans le Grand Théâtre Lumière en compétition, en sélection officielle, le nouveau film du réalisateur vietnamien Tran Anh Hung qui s'appelle La Passion de Dodin Bouffo et qui a été tourné l'an dernier en Anjou. Et en tant que comédienne, tu as eu la chance de tourner une scène avec Benoît Magimel, qui tient le rôle principal aux côtés de Juliette Binoche, encore elle, dans ce film.
C'est la fin de l'émission.
Je pensais qu'il y aurait d'autres choses à se dire. Merci beaucoup. On se retrouve dans 15 jours, puisque tout le monde est resté quoi de ces informations. On se retrouve dans 15 jours avec une nouvelle émission consacrée au cinéma, évidemment. On aurait évidemment plein de conseils à vous suggérer.
On a peut-être un d'ailleurs, Anne-Li.
Ah, vous pouvez aller voir War Pony, qui a eu un prix, Margot, tu nous as...
Qui a eu un prix très important l'an dernier, parce qu'il a eu la Caméra d'Or, qui est le prix du meilleur premier film, un prix d'avenir, décerné tous les ans au Festival de Cannes.
Voilà, et je l'ai vu, c'est un voyage, c'est singulier, allez-y, testez, et puis vous nous raconterez. À dans 15 jours, 19h sur Radio G, toutes les infos sont en ligne sur le site de la radio, à la page de l'émission Caméra Subjective. Bon film.
Radio G 101.5 FM.
You said I was violent, not like your silence, not like these violent city sounds, sirens screaming all around, but in the way I move you, it's in the way that I move.
There's a secret.